fais un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeuristes. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est l'heure de parler cinéma, de l'actualité cinématographique. Et avec moi pour cette émission, eh bien, il y a Gob. Bonsoir, Gob.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à toutes et à tous. Encore beaucoup de choses à vous dire ce soir. On va essayer d'être concis, précis et de vous donner envie d'aller dans les salles obscures. C'est quand même pour ça qu'on est là.
Oui, tout à fait. Et Claude, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ouh, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Claude. On ne t'entend pas. Ouh là 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 là,
oui.
On t'entend très très mal.
Oui. Vas-y.
Bonsoir à toutes et à tous.
Oh, on t'entend de loin. Oui. Tu vas changer de micro si ça te dérange pas, Claude. Et oui, c'est les joies du direct. Est-ce que tu peux prendre le micro bleu, s'il te plaît ? Ouh. Oh, pardon.
Oui, excusez-moi. C'est mieux là ?
Oui,
ah, ouais, bah voilà, là on t'entend, Claude. C'est parfait.
Bon. Super. Et donc voilà, c'était Claude. Et donc à nous trois, nous allons vous parler de cinéma. Et avant, je vous propose de faire une introduction avec l'agenda, avec quelques dates à vous suggérer, à noter dans vos tablettes. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler les dates de la prochaine édition du festival LGBT+, d'un bord à l'autre, qui est organisé au Cinéma Les Carmes du 28 septembre au 2 octobre. Donc ça commence demain. Ensuite, j'ai aussi l'association La Bande de l'écran qui programme aussi au Cinéma Les Carmes le film de Clint Eastwood, Bird, le dimanche 8 octobre à 17h. Et puis, autre information un peu plus qui ne concerne pas directement le cinéma, mais qui nous concerne tous et toutes, surtout toutes, c'est donc jeudi 28 octobre, qui est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Il y a donc des événements qui sont organisés et je vous suggère d'aller au 108. Donc demain, de 15h à 18h, si vous le pouvez, il y a un atelier de confection de drapeaux et de fanions féministes. Puis à 18h30, place du Martroi pour la manifestation. Et qui se termine à 20h30 au 108 pour un after manif avec un DJ set féministe et queer. Un after qui se terminera donc à minuit. Voilà, au 108. Et cette journée internationale pour le droit à l'avortement, j'en parle parce que j'ai découvert un documentaire vraiment intéressant sur la plateforme Tank. Tank, qui est une plateforme dédiée au cinéma documentaire que je vous conseille vivement et qui est accessible si vous adhérez à la médiathèque d'Orléans. Vous pouvez donc accéder à la plateforme Tank et sur cette plateforme, il y a le documentaire Histoire d'A, tourné en 1973 en mode guérilla à l'initiative du groupe Information Santé grâce à un petit apport financier du planning familial à l'époque. Marielle Issartel et Charles Belmont réalisent un film contre la propagande et la désinformation de l'État à cette époque-là sur l'avortement. Et donc, c'est un film qui est disponible encore 38 jours que je vous conseille vivement. Voilà pour ma petite partie agenda. Si vous avez Gob et Claude.
Le micro qui marche, c'est lequel ? C'est celui-là aussi ?
C'est le bleu.
C'est le bleu ?
Oui, c'est le bleu. On t'entend un peu sur le rouge, mais oui, parce qu'il y a le bleu à côté.
OK.
C'est mieux.
Oui, vous êtes prêts ?
On est prêts.
Parfait. Eh bien, on peut commencer avec nos chroniques. Et on ne s'est pas fixé l'ordre.
Moi, je commencerai bien par le Korismaki.
Oui, ok. Tu as vraiment envie d'en parler.
Ah oui, oui.
Mais on va en parler. Toi et Claude, donc, vous l'avez vu, pas moi. Mais c'est pas grave, moi j'ai hâte aussi de le découvrir. Hein. C'est un film qui, donc le dernier film de Aki Kaurismäki qui a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Et donc Les Feuilles Mortes. Et donc vous voulez nous en parler, bien, Gob, tu peux commencer.
Alors Aki Kaurismäki, on est tellement content de le retrouver. C'est un cinéaste chéri de la cinéphilie internationale. Aki Kaurismäki, ça fait quand même 40 ans qu'il tourne. Voilà, je crois que son premier film, c'était Shadows in Paradise en 84 ou 85. Et puis après, il y a eu tellement de films qu'on a aimés. Ariel, la fille aux allumettes, L'homme sans visage, au-delà des nuages. Enfin, tellement de films magnifiques. Et là, il tourne de moins en moins parce qu'il a du mal à trouver des financements. Et le dernier film remontait à 2017 ou 2018. Avant, il y avait eu Le Havre qui est en 2011. Donc voilà, ces films se font rares. Donc c'est un cinéaste rare. Et là, moi, j'ai été complètement emballé par ce film. Je suis sorti enchanté. Il y a tout ce qu'on aime chez Kaurismäki. Il y a de la poésie, il y a de la tendresse, il y a de la sensibilité, il y a de la pudeur. Il continue à faire ce cinéma où il travaille tout en douceur, les couleurs, les décors. Il y a une place très très importante, comme toujours chez lui, accordée aux chansons. Il y a ces chansons de variété finlandaise, suédoise, russe. Et en plus, ce qui est génial chez lui, c'est qu'à chaque fois, les chansons, elles sont tellement bien choisies parce qu'elles, les paroles des chansons, et c'est important de voir en VO parce qu'elles sont traduites, et elles accompagnent, elles commentent l'action, les paroles. Et ça, c'est vraiment tellement intéressant. Et puis, voilà, c'est du Kaurismäki, quoi. Il montre un monde libéral qui est de plus en plus déprimant, qui est de plus en plus cruel, qui est de plus en plus désespérant avec les gens. Il montre ces gens du peuple qui subissent tous les jours. Et puis pour certains qui tombent dans un alcoolisme de plus en plus fort pour comme remède malheureux à leur mal de vivre. Et puis il y a cet humour à froid, cet humour décalé qui fait mouche à chaque fois. Il y a peu de dialogue, il y a énormément de choses qui se passent par les regards et tout ça forme un ensemble poétique, romantique. Là il y a encore une place très très importante accordée à cette histoire d'amour, et cette histoire d'amour, c'est le remède à cette morosité ambiante, comme toujours chez lui. Et puis voilà, c'est un cinéaste qui admire, on le sait depuis toujours, Chaplin. Là, il y a encore des références évidentes au cinéma de Chaplin dans le film, dont un final que je vous révélerai pas et qu'il faut voir. Et vraiment, c'est un cinéma enchanteur, un cinéma qui nous transporte. Et une fois de plus, eh bien, l'adage se vérifie. Une fois de plus, le film qui a eu le prix du jury était certainement le film qui aurait dû avoir la Palme d'Or, pour moi. Et en tout cas, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Et je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu jusqu'à présent cette année. Voilà, Claude.
Bon, alors, moi, j'ai vu ce film d'Aki Kaurismäki. Je fais un pitch très, très rapide. Hein. C'est l'histoire de deux êtres, un homme et une femme. Ils sont tous les deux sur le bord du précipice ou sur le fil du rasoir d'une façon quasiment constante. Et ils vont vivre une histoire d'amour qui ne va pas être simple. Et ce qui leur reste dans leur existence, et ça c'est bien dit par Xavier, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose. Le libéralisme fait fureur, le travail c'est vraiment travail de manuel avec des conditions difficiles. Donc ce qui leur reste pour espérer vivre, c'est l'amour. Voilà. Alors moi, j'aime bien Aki Kaurismäki, mais j'ai trouvé là qu'il s'était quand même sérieusement radicalisé. Il va vraiment dans l'épure totale. Je rappelle que quand même le radicalisme, c'est aller à la source. Donc il va vraiment à la source de ses propos-là. C'est-à-dire il fait une mise en scène qui est extrêmement épurée. Il y a beaucoup de tu as parlé les feuilles mortes des chansons françaises, mais il y a aussi des références au cinéma français parce qu'on voit des affiches de Godard.
Oui, de toute façon Godard c'est son deuxième cinéaste préféré après Chaplin.
C'est une mise en scène extrêmement dépouillée, presque austère, voire froide comme malheureusement la vie qui vivent. Et il y a heureusement que il y a cette histoire de poésie entre les deux êtres. Et comme toujours chez Coris Maki, c'est parfois difficile de dater le film. Ça, il joue beaucoup, il est tout à fait dans l'intemporel. Je ne sais plus dans quel film qui doit se passer dans les années 50. Tout d'un coup, on voit Jean-Pierre Léaud qui dégaine son portable et qui téléphone, ce qui est fort improbable. Je pense
que cette intemporalité qui existe dans tous ces films, hein, depuis le départ,
oui.
C'est une manière pour lui de renforcer l'aura poétique qui travaille de film en film. Et je pense que c'est pour beaucoup dans la réussite de son cinéma, pour moi.
Alors, ma fille a trouvé que dans ce film, il y avait beaucoup d'humour. Moi, j'ai quand même...
Moi, je suis d'accord avec ta fille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a cet humour à froid et décalé qu'il a toujours pratiqué. Et les rares saillies humoristiques sont d'autant plus drôles qu'effectivement, elles arrivent dans un climat particulièrement dépressif. Et ça, il le fait magnifiquement bien parce qu'effectivement, c'est tellement en décalage avec les situations que quand il y a les saillies humoristiques, elles font mouche à chaque fois.
Oui, c'est un humour très, très froid. Hein.
C'est l'humour finlandais.
Voilà. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même un homme qui a dit « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit le faire savoir. »
C'est vrai. Et c'est tellement juste.
C'est un film qu'il faut bien évidemment aller voir. Mais là, j'ai trouvé que c'était encore plus épuré que dans ses autres films. J'avais beaucoup aimé Le Havre avec Darroussin, qui avait une portée sociale, donc on la voyait très bien. Et là, c'est vraiment, on retourne à la paupérisation. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement tenu, prenant. On a l'impression qu'ils ont une chape de plomb sur eux et qu'ils vont s'en sortir extrêmement difficilement.
Mais on est dans une société engluée dans une chape de plomb. Je pense que Coris Maki, malheureusement, nous montre des choses. Mais c'est là quand même, je pense, qu'est tout son art et c'est tout, c'est qu'il nous dit que il y a une alternative à tout ça. C'est l'art. Et c'est l'amour.
Et c'est l'amour.
Et
oui.
C'est quand même un joli message.
Oui.
Ils
n'ont plus que ça pour eux, quoi. L'amour, il en reste que ça, puisqu'ils ne vont pas se réaliser dans la vie, ils ne vont pas se réaliser sur le plan social, ils ne vont surtout pas se réaliser sur le plan du travail, encore moins. Donc,
réalisons-nous dans la beauté et les sentiments.
C'est très beau. C'est très, très beau. Moi, je n'ai pas vu le film, donc du coup, je ne pourrais pas me positionner, mais en tout cas, je vous entends et vous me donnez envie d'aller le voir, évidemment, parce que oui, j'aime beaucoup son cinéma très, très poétique, donc j'ai hâte de voir ce dernier film. Et bien justement, moi j'ai préparé aussi les pauses musicales, et je vous propose d'écouter un morceau de la bande-son de ce film.
Alors ça c'est super, parce que c'est tellement important, c'est tellement important et tellement bien choisi les chansons dans ces films.
Ça tombe bien.
Ça tombe super bien.
Et donc en premier morceau, je vous propose d'écouter... Get On du groupe Euregan, qui je pense va beaucoup plaire aussi à l'équipe de l'émission Roll Mops qui nous a précédés, s'ils écoutent encore Radio Campus, car c'est un morceau qui pourrait rentrer dans leur programmation. Donc on écoute et on se retrouve juste après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et c'est bien l'émission Alors on se fait un film sur l'actualité cinématographique. Et on continue avec nos chroniques et je vous propose d'enchaîner avec le film Barbie de Greta Gerwig. J'ai pas eu le temps la semaine, il y a deux semaines, d'en parler. Et donc, je vous propose de vous donner un peu mon avis, ma position sur ce film qui a beaucoup parlé, qui a eu beaucoup d'entrées, qui a eu beaucoup de succès. Et donc, pour moi, Barbie, personnellement, enfin de base, c'est pour moi du pinkwashing à la sauce capitaliste. C'est un film qui est coproduit par Mattel. C'est moi ce qui me fait penser qu'il faut redorer l'image de Barbie et que ça rapporte encore de nouveau de l'argent à Mattel. Donc, moi, je suis sortie de ce film avec... avec cette sensation de pinkwashing. Et pour les féministes, ce film n'apprend rien. Au contraire, il peut même agacer. Néanmoins, c'est en discutant, c'est quand même une ouverture au féminisme pour le grand public. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et ça peut révéler du coup la réalité de notre société sexiste et patriarcale à un public qui n'a pas la vision, le regard, la pratique et ne lit pas forcément autour de ces sujets. Et pour cet aspect-là, je trouve que c'est un film qui peut être intéressant. Et puis, on peut souligner que c'est un blockbuster qui est réalisé par une femme, qui est donc devenu le plus grand et qui est devenu là le plus grand succès au box-office pour Warner. Donc, c'est quand même important. Je trouve ça aussi. C'est aussi un progrès, je trouve, pour le cinéma et que les femmes aussi s'emparent de ce cinéma blockbuster et avec des budgets importants, ce que aussi d'autres des réalisatrices peuvent aussi réaliser, ce qui n'était pas forcément le cas à qui les producteurs ne donnaient pas la confiance financière à des réalisatrices. On sent qu'il commence à y avoir un changement. Ça met du temps, mais ça avance. Et donc, pour continuer juste, Greta Gerwig, donc, qui a réalisé qui est une réalisatrice qui a adapté Les filles du docteur March, Lady Bird, qui a joué dans The Frances Ha, qui a remporté en 2018 l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Lady Bird. Elle a reçu des prix en tant que meilleure actrice pour son rôle dans Frances Ha. Donc, c'est une artiste qui est connue, reconnue pour sa participation d'une mouvance du cinéma indépendant américain, Mumblecore, qui est une mouvance entre 2005 et 2015 environ, qui est caractérisée par des films dits fauchés. Donc elle a commencé dans cette mouvance, des films sur des sujets tournant autour des relations entre personnes entre 20 et 30 ans, donc des dialogues improvisés, des acteurs souvent non professionnels. Et là, elle se retrouve avec un budget intéressant, qui lui donne aussi donc une liberté et aussi certainement beaucoup de contraintes, mais elle montre qu'elle s'adapte à chacun de ses films et de ses budgets pour défendre des valeurs féministes dans une société américaine. Et donc des valeurs féministes, mais pas forcément anticapitalistes. On est encore aux États-Unis. Et aussi, je voulais préciser quand même que c'est un film qui est co-scénarisé par son mari Noah Baumbach, qui est aussi un réalisateur très 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 reconnu aux États-Unis. Voilà, donc c'est un film, je trouve, à voir quand même pour cet aspect, cette ouverture sur le féminisme. Mais si vous êtes féministe aguerri, peut-être à éviter. Voilà pour ma chronique Barbie.
Oui, j'aurais une petite réaction.
Oui, bien sûr, tu peux, évidemment.
Je trouve ça intéressant quand tu parlais du fait que des femmes soient à la tête des blockbusters. Il y a eu Patty Jenkins avec Wonder Woman, il y a eu ouais. Chloé Zhao avec Les Éternels.
Ouais.
Moi, mon avis, si tu veux, c'est que moi, je pense que le fait, c'est bien que des femmes réalisent ce genre de film. C'est pas pour ça que ça les rend, que ça leur donne, ça les rend meilleurs. Et moi, c'est vrai que personnellement, après, c'est un avis personnel. On en avait parlé hors micro la dernière fois qu'on s'était vu. Moi, je me refuse à aller voir ce film, comme ça m'arrive des fois de me refuser à aller voir certains films en salle, parce que effectivement, pour moi, et comme tu le disais au début, je pense que c'est quand même une grosse manipulation commerciale. Mattel est complètement derrière. Les ventes de Barbie ont re-explosé de je sais pas combien de pourcents dans le monde depuis le film. Donc, je pense qu'ils ont réussi leur coup. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie de participer à cette grande manipulation commerciale mondiale. Même si, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que Greta Gerwig est une réalisatrice de talent. Et que sans doute qu'elle a mis dans son film des choses intéressantes, et je l'ai lu par-ci par-là, donc je pense que c'est certainement le cas, mais effectivement, on va dire par une certaine position morale, je n'irai pas voir ce film en salle, mais je le regarderai autrement pour au moins me faire une opinion.
Oui, non, mais effectivement, ce que je redis, c'est un film qu'on peut dire féministe grand public, mais il n'est pas anticapitaliste. Ça, pour moi, c'est clair. Non, mais je comprends ta position et oui, non, mais effectivement. Et puis, pour revenir sur les femmes qui accèdent de plus en plus aux blockbusters, oui, non, je dis pas que c'est parce que ce sont des femmes que les films seront forcément de qualité. Je n'ai jamais dit ça, mais ça permet d'avoir quand même une égalité d'accès à des financements et de donner la possibilité à des femmes réalisatrices de pouvoir, de donner cette possibilité de réaliser des blockbusters. Et les films que tu as cités sont quand même pas si mauvais. Bon, jusqu'à...
En fait, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais. J'ai simplement dit que le fait de se réaliser par des femmes ne les rendait pas forcément meilleurs. Hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Céline.
On passe au film suivant.
En parlant de films de femmes.
Je sais, mais oui, l'été dernier.
Un film de femme.
L'été dernier de Catherine Breillat.
Et une femme qui tourne depuis bien longtemps.
Oui, 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 qui a effectivement une grande filmographie. Et qui, donc, Claude, tu avais commencé à nous en parler.
Il y a 15 jours.
Il y a 15 jours. Où,
j'avais dit tout le bien que je pensais de ce film.
Eh bien, Gob, tu veux commencer ?
Oui, je
veux bien aussi. Ouais.
Bah écoute, moi j'ai trouvé le film vraiment réussi et intéressant. Moi, il y a vraiment une chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que, comme l'avait dit Claude la semaine dernière, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien interprété. Moi, je trouve que Léa Drucker est vraiment extraordinaire dans le rôle. Et moi, ce qui vraiment, pour moi, tient le film de bout en bout, c'est qu'elle arrive à mettre vraiment une complexité, une ambiguïté à ses personnages qui tient jusqu'au bout du film, parce que effectivement, ces personnages, on n'arrive jamais à les saisir vraiment, et cette ambiguïté, cette complexité qui existe durant tout le film donne au film un parfum de perversion, de douce perversion, qui pour moi fait que le film fonctionne vraiment à ce niveau-là, et avec une morale, enfin une morale si on peut dire, une morale finale finalement qui est extrêmement amère, puisque ce qui ressort de ce film, c'est qu'au bout du compte, au bout des perversions, au bout des manipulations entre les personnages, ce qui finit par l'emporter, c'est l'ordre bourgeois, c'est l'ordre moral bourgeois qui se préserve dans toutes les situations. Et moi, c'est ça que j'ai retenu du film. Et pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de ce film, et en dehors de ses qualités d'écriture évidentes. Et moi, je trouve d'une interprétation effectivement parfaite, parce qu'il faut... Il y a aussi ce personnage du mari d'Olivier Rabourdin qui est très, très bon dans le rôle et qui joue aussi un personnage pas évident à jouer. On ne sait pas aussi lui vraiment, et on ne sait jamais en fait, c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui motive les personnages. Par moments on le pense, on fait des suppositions, et puis deux scènes après elles sont contredites. Donc voilà, moi, pour moi c'est un film qui emporte le morceau parce qu'il est... Il y a vraiment cette charge de perversion qu'elle n'a pas toujours si bien réussi par le passé, où des fois c'était de la provocation un peu gratuite. Et là, pour moi, elle a passé un cap et le film tient vraiment la route. Et moi, je suis sorti un peu déstabilisé et je pense que c'est ce qu'elle voulait. Et pour moi, ça fait le sel du film. Voilà. Je te laisse la parole, Céline.
Alors, moi, je suis d'accord sur ta dernière analyse que l'ordre bourgeois, effectivement, doit être maintenu et domine toute situation. Effectivement, je te rejoins sur cette analyse. J'aimerais juste, avant de donner mon avis, rappeler que donc, l'été dernier, c'est une adaptation du film Queen of Hearts de la cinéaste danoise May El-Touki. Qu'elle a réalisé en 2019.
2017.
17 hein. Ah, j'ai vu 2019.
J'ai fait des recherches. Le film est sorti sous deux... Il est sorti au Danemark et en Belgique sous le nom de Dronningen. Mm. Et il est sorti aux États-Unis et dans d'autres pays sous Reine du cœur.
D'accord. Et peut-être que c'est en France qui est sorti en 2019. C'est pour possible. Ça que j'ai trouvé
non,
cette
date.
Non,
il n'est pas sorti en France.
Il n'est pas sorti en France.
Non, il n'est pas sorti. Justement, pas j'essaye pourquoi. De trouver j'ai... une version française, sachant qu'il a été diffusé en Belgique. Mmh. Alors, je suis allé sur Amazon. Je l'ai trouvé, mais qu'en version anglaise. Et je vais chercher sur eBay, parce que s'il est sorti en Belgique, normalement, on devrait le trouver.
D'accord, ça a l'air d'être compliqué là pour pouvoir.
Non,
voir
tout
ce
simplement
film.
Parce que je voudrais savoir quel est l'apport de Catherine Braillat
par rapport au film original.
Oui, voilà. Parce que c'est un film quand même qui est récent, même si c'est 2017, c'est oui, très
oui.
récent.
Oui, c'est récent.
Et juste de rappeler quand même le pitch du film, que c'est quand même une relation incestueuse hein, entre ce personnage féminin, donc une avocate.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a inceste
C'est pas son voilà. fils.
Ah, mais c'est son beau-fils. Moi, je termine. Il y a quand même une parenté.
Il n'y a aucune parenté.
Moi, je trouve que c'est.
Il n'y a aucune parenté.
C'est quand même limite. Enfin, non, pour moi, c'est juste pas possible. Enfin,
c'est
pour
une
moi,
perversion, mais c'est pas un système.
Pour moi, c'est. Et puis, en plus, un beau-fils qui a 17 ans. Elle a 40 ans. Et c'est une avocate qui est interprétée par Léa Drucker. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc c'est une avocate qui est renommée, enfin comme on voit dans le film. Alors moi je n'ai pas été convaincue, mais alors pas du tout par le film. Le personnage de Dan, donc l'avocate qui est jouée par Léa Drucker, qui incarne une femme bourgeoise avec toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans le cinéma de beaucoup de réalisateurs masculins, avec les talons hauts qu'elle porte dans toutes les situations. Non mais sur la pelouse,
elle est pas très grande, hein, Léa Drucker.
Non mais même, peu importe non, qu'elle soit petite ou grande, enfin les talons hauts sur la pelouse, enfin désolé, enfin je la robe, enfin inconfortable, le verre de vin à chaque scène. Moi c'est les clichés typiques de la femme bourgeoise. J'ai pas adhéré en face d'un jeune adolescent aussi cliché du bourgeois à problème, ça m'a un peu agacé. Et Bria, enfin effectivement dans sa façon de filmer avec un cadrage qui est très très intrusif, qui est volontaire, qui veut déranger. Ce jeune garçon, en fait, il apparaît comme un objet de désir. En fait, c'est moi, je l'ai ressenti. Enfin, c'est très malsain. Et ça m'a. Alors, c'est peut-être ce qu'elle souhaitait, du coup, Bria, de vouloir.
Je peux te couper deux minutes, Céline. Excuse-moi. Non, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que, comme tu viens de le dire, je pense que c'est ce qu'elle veut, Bria. Elle veut montrer, effectivement, une relation qui s'établit, parce qu'effectivement, ce jeune garçon est un objet de désir. Et toi. Il y a un film de Luchino Visconti qui est très célèbre, qui s'appelle Mort à Venise. Et l'adolescent du film de Breya ressemble, comme deux gouttes d'eau, physiquement, à Tadzio, dans le film de Visconti. Et dans le film de Visconti, il y a ce vieil écrivain qui est sur la fin de sa vie et qui tombe red dingue de cet adolescent, de cet éphèbe, parce qu'il le fait complètement craquer physiquement. Et là, je pense qu'on est dans le même ordre d'idées. Et on est effectivement, elle, cette femme craque sensuellement pour cet éphèbe. Et effectivement, après, je suis d'accord avec toi, Céline, on peut condamner ça moralement. Je pense que c'est ce qu'elle veut. Bria, elle veut mettre le spectateur en face de son propre regard moral.
Je suis désolée, c'est pas très clair en fait. Sa position n'est pas très claire. Le jeu de séduction n'est pas. Enfin, je le trouve pas du tout crédible avec un jeu de pouvoir qui se met en place. Entre elle et ce jeune adolescent, je rentre pas du tout dans cette relation que je trouve pas du tout crédible. Bria est obsédée par le corps, le désir, d'accord, mais elle filme, y a des scènes avec des plans sans contre-champ qui fait rentrer le spectateur ou la spectatrice dans la scène, qui est hyper déstabilisant et sans savoir si elle veut vraiment provoquer. En fait, j'étais extrêmement mal à l'aise dans beaucoup de scènes et c'est peut-être ce qu'elle recherche. Mais il y a eu des moments aussi où je trouvais ça tellement pas crédible que ça en devenait même presque comique, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle... Où elle veut aller, là, ça devient risible. Et je trouve que ça perd vraiment toute crédibilité. Et puis, de manière générale, en fait, cette histoire de... C'est une histoire de bourgeois, en fait, dans laquelle je me suis ennuyée, mais... il y avait des longueurs et j'étais interminable. Je n'avais qu'une envie, c'était de sortir. Par contre, je reconnais la maîtrise du jeu de Léa Drucker que je trouve qui est dans un jeu d'un personnage très complexe, et je trouve qu'elle s'en sort très bien. Je la trouve très juste, mais à part elle, Je suis pas du tout rentrée dans ce que Bria avait envie d'exprimer. Je sais pas ce qu'elle veut dire en fait. Et je trouve ça hyper ambigu. Et moi, contrairement à vous, j'ai pas du tout adoré ce film.
Ok.
Bon, alors moi je vais revenir sur un peu ce que j'ai dit et je vais donner d'abord une définition de l'inceste pour qu'on soit bien d'accord. L'inceste, c'est une relation. C'est une relation sexuelle entre parents. Relation sexuelle entre un homme et une femme liée par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage. On n'est pas dans ce cas-là.
Non, mais le beau-fils... Bon. Hein.
Donc, on n'est pas dans un caractère incestueux, premièrement. Moi, pour moi, ce film, c'est l'histoire, je l'ai dit, je le répète, c'est les valeurs d'une avocate mise à mal par l'appel du sexe. Et c'est l'histoire d'un dérapage. Si j'avais eu, je suis un peu prétentieux, mais si j'avais eu à tourner ce film...
Un dérapage, ça a lieu une fois. Non, vous m'avez interrompu, donc je peux aussi interrompre.
Je répète que je suis un peu prétentieux à tourner ce film, pour dédouaner notre amie Léa Drucker, dédouaner cette femme, j'aurais mis une scène où le garçon l'aurait embrassée de force. Ce qui n'est pas le cas, parce que elle est dans l'ambiguïté sur la séduction. Là, il l'aurait embrassée de force et elle aurait été mise face à ce que j'appelle face à elle-même et qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Et ça l'a dédouanée de la séduction. Ça, c'est le premier point. Et puis, moi, je voudrais dire une chose, c'est que c'est quand même un film extrêmement maîtrisé. Et, j'ai pas pour habitude, mais j'ai écouté Le Masque et la Plume et je sais pas quel intervenant, quelle critique a fait une... Moi, j'ai horreur de la critique. Il a parlé d'abord de Catherine Braya et pas du film, en disant « Ah ben voilà, vous savez bien qu'avec Catherine Braya, au bout de 10 minutes, on allait avoir une scène de cul. Ça peut pas être autrement. » Bon, non, c'est quand même pas ça. Et par ailleurs, elle est quand même... Il y a beaucoup de tact dans ce film, il y a beaucoup de distance. Ce qui est rare. Moi, Catherine Braya, je savais qu'elle savait très bien filmer. Je me souviens d'un moment dans une scène de voiture sur la route où il pleut et elle remonte l'autoroute à toute vitesse. Je ne sais plus qu'elle espule. Mais c'est des grands moments de cinéma. Mais je ne savais pas qu'elle était capable de maîtriser un scénario comme celui-ci. Et là, on est d'accord ou pas d'accord avec le film, mais on ne peut pas on ne peut pas dire que ce film ne soit pas maîtrisé.
Non, il peut être maîtrisé, mais après, il veut dire quelque chose. Il y a ce qu'il exprime est quand même hyper ambigu. Et en plus, elle choisit une avocate des affaires de famille. Enfin, elle défend des enfants.
Mais c'est le portrait d'un personnage. Mais on a le droit de faire le portrait de cette femme-là.
Non, mais d'accord. Bon, mais enfin... du coup, c'est la position de Catherine Breillat que j'interroge hein, sur ce film.
Je ne sais pas si c'est sa position, parce que je n'ai pas vu le film original. Quand je l'aurai vu, je vous en parlerai.
Bon, on va passer à un autre film. On peut ne pas être d'accord. Nous, on vous invite, spectateurs, spectatrices, à aller le voir.
À vous faire votre avis.
Vous faire votre propre avis. Et donc, on va passer... on va faire une pause musicale. Hein. Oui. Voilà, ce sera plutôt plus sympathique. Et donc, pour continuer dans la bande-son du film Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki, qui est actuellement à l'affiche, je vous propose d'écouter un autre morceau qui est une touk-touk-touk, qui est la reprise de la chanson française Les Feuilles Mortes, évidemment, qui a été reprise en finnois par Olavi Virta en 1958. On écoute et on se retrouve juste après, toujours sur Radio Campus Orléans.
Kun saapuu syys, niin lehdet puiston se hehkumaan. Saloistoaan, kuin ikävyys, mi kauniin muiston, voi synnyttää, vaik suru jää. Hetken lehdet muo, vielä hehkuu, on loisto tuo, jo viimeinen. Ovat muistojemme lehdet kuolleet, ne mennessään vie tuulonen. Toivoisin sinunkin muistelevan päiviä kesämme kauneimman. Aurinko hymyili suloisemmin. Rinnallas armahin kunnastelin, kauan tuo kesämme kestänyt ei, pois hallasen kukkaset mei. Kesästä jäljelle jäi muisto vain, polttava kaipuu nyt on rinnassain. Ken muistoja mielessään kantaa, paljon hän voi omistaa, ei niitä voi toiselle antaa, ne syömmen kätkeä saa. Ken lehdet muo, vielä hehkuu, on loisto tuo, jo viimeinen. Ovat muistojemme lehdet kuolleet, ne mennessään vie tuulonen.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et donc, on vient d'écouter une reprise de la chanson française Les Feuilles Mortes qui a été donc reprise en finnois par Olavi Virta, qui est une chanson au départ chantée par Yves Montand. Voilà, pardon, Gob. Oui, tu voulais dire.
Et quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi il a choisi les feuilles mortes.
D'accord.
Visuellement, vous comprendrez.
Donc on parle bien du film de Aki Kaurismäki. Ouais. Eh bien, on arrive sur la dernière partie de notre émission, si on ne se bagarre pas. Mais ça devrait aller, parce que je n'ai pas vu les derniers films dont vous allez parler. donc tout devrait bien se passer. Gob, tu veux commencer avec Tony en famille ?
Oui. Alors, Tony en famille, c'est une comédie dramatique d'un jeune réalisateur français qui s'appelle Nathan Ambrosini. Et qui a fait un film pour moi vraiment réussi. Alors il y a Camille Cotin qu'on a vu beaucoup au cinéma ces dernières années, et souvent dans des rôles de femme extravertie, et qu'elle rabâchait un petit peu, on va dire. Et là, dans un rôle différent, dans un rôle où elle fait preuve de beaucoup de sobriété, dans le rôle de cette mère de famille qui doit élever seule ses 5 enfants parce que son mari est décédé et qu'elle n'a pas refait sa vie avec quelqu'un, et qui galère parce que c'était une ex-chanteuse à succès. Elle a fait une télé-réalité, et puis elle a été portée au nu, elle a fait un tube très vite, et puis après elle avait plus envie de faire ça, donc elle est sortie de ce monde, et en fait elle se retrouve à cachetonner. Il y a des scènes assez incroyables où elle va faire des enterrements de vie de jeune fille, où elle va dans des concerts ou des karaokés, capitaliser sur sa gloire passée. Donc ça donne des scènes tout à la fois drôles et amères, et puis donc c'est la peinture de cette femme qui se bat au quotidien pour arriver à élever ses 5 enfants, pour arriver à leur apporter un niveau de vie correct. Et puis voilà, c'est bien écrit, c'est assez fin, c'est souvent drôle, mais c'est plus souvent amer, et le mélange se fait bien. Et puis les jeunes acteurs sont vraiment très très bien, et puis c'est bien écrit. On passe une heure 35-40 très 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 agréable, et moi je suis sorti en ayant évidemment la notion d'avoir pas vu un immense film, mais en tout cas une vraie bonne comédie douce amère française, et qui donne envie de suivre ce jeune réalisateur.
Redis le nom du réalisateur.
Nathan Ambrosini.
Alors, Nathan Ambrosini, moi je le connais bien parce que je l'ai rencontré à Angers lorsqu'il a eu le prix du public pour Les Drapeaux de papier. C'est un garçon qui a fait son premier film à 17 ans. Il est sorti, il avait 18 ans. Et il a quand même trouvé un producteur qui a mis 1 million d'euros sur la table pour tourner ce film. Il fallait quand même croire sacrément dans le personnage. Il a commencé à tourner à des films à l'âge de 12 ans avec son père. Il a commencé par des courts-métrages de genre. Il s'est d'ailleurs fait dans un festival à Londres, parce que c'est un garçon. Moi, je l'ai vu à 18 ans, il n'a pas peur. Hein. Il monte sur la scène, je peux vous dire, il fait le show. Hein. Il s'est fait virer du festival à Londres. Ça ne l'a pas empêché de faire du cinéma. Ce film dont tu parles, Tony en famille, a eu le prix au festival de Vierzon. Donc, ça fait quand même deux films récompensés. Et je ne peux pas manquer, très brièvement, de vous raconter son histoire personnelle. C'est que ce garçon, il se dit, j'ai 17 ans, je vais passer le bac. Bon, si mon film ne marche pas, je ne vais peut-être pas continuer à faire du cinéma. Je vais remplir ma fiche pour Parcoursup. Refuser à la Sorbonne, refuser en BTS cinéma, et refuser je ne sais plus dans quelle autre école de cinéma. Vive Parcoursup.
Et puis, c'est bien qu'il y ait des parcours atypiques.
Oui, oui, je serais bien curieuse de connaître ses origines aussi, dans quel il a grandi, dans quel...
Dans le sud de la France.
Oui, mais pour avoir accès à... Enfin, pouvoir rencontrer un producteur.
Alors là, justement, comme j'ai passé du temps avec lui, j'ai pas pu interviewer sa productrice qui était présente, parce que j'aurais voulu lui demander comment vous avez fait pour... Alors, ils ont remis la main dans le scénario. Hein. Les Drapeaux de papier, ils l'ont retravaillé avec lui, mais ils l'ont accompagné, vraiment accompagné. Je me souviens plus, c'était une femme, cette productrice, mais qui est assez connue. Mm-hmm. Il suffit de voir les producteurs de... recherché producteur de Drapeaux de papier. Et c'est un garçon qui est plein d'avenir. Il doit avoir 21 ou 22 ans maintenant, tout au plus. Il
vient du sud de la France,
d'une famille modeste. Hein, il n'a pas grandi.
Oui, non, mais effectivement, il me semble avoir lu quelque chose là-dessus. Et je crois que c'est quelqu'un qui vient d'une famille, en tout cas, de... classe moyenne, quoi.
Mais classe moyenne, c'est pas du tout un type qui avait des relations. Qui avait,
oui, je pense.
Pas du tout, non.
D'accord. Ok. Donc
des fois, les producteurs font des paris sur des jeunes réalisateurs.
Oui.
Et il m'avait dit, Claude, on se revoit à Orléans. Hein. Sauf qu'à Orléans, je ne dirais pas qui, mais ils n'ont pas voulu le faire venir. Bon.
Eh bien, je crois que Jean-Claude, tu veux parler d'un autre film que tu as vu ?
Oui, très rapidement, je vais vous parler de Coup de chance, qui n'est pas un coup de cœur. Le dernier film de Woody Allen, tourné en France. C'est une comédie dramatique, traitée avec légèreté. Bon, moi, je me suis demandé par moments si on n'était pas un petit peu dans la caricature d'un certain milieu bobo, relativement snob.
Bon, c'est Woody Allen, tu vois.
Oui, oui, ce milieu.
C'est étonnant.
Et on est quand même un peu dans les clichés, dans la description de cette société. Et les dialogues, en général, c'est très écrit, les dialogues de Woody Allen. Là, c'est un peu... Alors, j'ai su qu'il avait fait un premier... Comme il ne maîtrise pas le français, il a laissé les gens un peu improviser. Ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu. Et alors, moi, il y a quelque chose qui me... Je commence... Là, je voudrais que vous alliez voir ce film pour... rien que pour Melville Poupeau. Moi, ça fait deux fois que je vois Melville Poupeau en mari possessif, manipulateur. Il échoue totalement dans ce genre de rôle. On l'avait vu avec Virginie Efira, je ne sais plus dans quel film, c'est
oui,
Céline,
oui, oui,
où je ne l'avais pas trouvé bon. Et là, c'est dans ce rôle-là, il n'est pas bon. Et dès qu'il quitte ce rôle de manipulateur, de mari possessif, il redevient excellent. Il ne faut pas lui faire jouer, c'est des choses...
Ah, c'est dans L'amour et les forêts de Donzelli.
Oui, L'amour et les forêts, tout à fait. Bon, moi, je n'avais pas trouvé bon, pas du tout. Et là... je ne l'ai pas trouvé bon dans ce rôle. Donc, si vous avez 1h30, je vais te dire, j'y suis allé parce qu'il ne durait qu'une heure trente. Je voulais voir Le procès Goldman. Voilà. Bon. Mais j'étais pris par le temps pour venir ici. Donc, bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, pour aller voir le film. Sinon, il y en a d'autres à voir.
Je pense qu'on aura, on trouvera des choses à faire. Autre,
oui.
Voilà. Moi je voulais juste dire, bon, de toute façon, je n'irai pas voir le film. Moi, je trouve triste un réalisateur que, enfin voilà, nous qui commençons à avoir un petit peu de bouteille, Claude, un réalisateur qu'on a tellement aimé, enfin que moi j'ai tellement aimé et respecté et vénéré dans les années 80 et même 90, le voir s'enliser film après film depuis quelques années, c'est quand même triste. Et voilà, c'est aussi pour ça que je n'irai pas.
Et sinon, tu as vu, toi, Gob, tu as vu d'autres films ?
Oui, alors il y a deux films dont je vais parler qui ont quitté l'affiche, mais que j'ai beaucoup aimé. Le premier film, c'est un film de Nicolas Silol. Alors, lui aussi, c'est un jeune réalisateur français qui avait fait, il y a quelques années, un film très intéressant sur le milieu du travail qui s'appelait Corporate, sur l'histoire d'une RH qui était envoyée dans une entreprise pour arriver à dégraisser, comme on dit, pour arriver à
enlever. Bah, c'est joliment
voilà,
dit, hein.
Tout à fait, c'est ça, c'est le terme hein, qu'on emploie dans le monde libéral, et qui dégraissait effectivement avec beaucoup de talent, si on peut dire, et qui était rattrapé par la morale, ça arrive, voilà. Et donc là il fait de nouveau un film engagé politiquement avec le film qui s'appelle Anti-Squat. Parce que Anti-Squat, il a basé son scénario sur une loi qui existe réellement. Je me suis renseigné effectivement avant d'aller voir le film. C'est une loi qui est passée sous notre cher gouvernement macroniste il y a quelques années maintenant. Et cette loi, elle permet à des sociétés privées de gérer des immeubles abandonnés, ou enfin en tout cas les étous. Et donc elles mettent dedans des locataires qui sont tenus à ne pas recevoir des gens, à ne pas avoir d'animaux, à ne pas avoir d'enfants. Donc c'est des gens généralement en état de précarité, souvent qui ont très peu d'argent. Alors c'est des loyers très bas, mais en contrepartie, ils doivent faire le ménage, ils doivent entretenir les locaux pour des propriétaires qui peuvent les virer avec un mois de préavis et qui attendent qu'une chose, récupérer les locaux qui ont été bien entretenus entre-temps pour les revendre encore plus cher à des sociétés, pour construire des logements de luxe. Voilà. Donc c'est vraiment dégueulasse. Hein,
et
donc Louise Bourgoin joue une femme qui elle-même est en précarité avec son jeune fils et qui accepte de devenir manager, entre guillemets, de cette société Anti-Squat qui, elle, est imaginaire, mais des sociétés comme celle-là existent dans la réalité. Et donc, il va y avoir toute une histoire qui se développe à partir de ça. Et cette femme, bah, elle va elle-même devenir quelqu'un de dégueulasse. Voilà. Et ce film, il est très juste, il vise très juste. Moi, j'ai plus d'une fois pensé à Ken Loach et à sa dénonciation depuis des années et des années, son combat sans faille contre les abus du libéralisme. Et là, on est vraiment dans du Ken Loach à la française. Et le film fonctionne vraiment très, très bien. Et il a été vu par très, très peu de gens. C'est bien dommage. Et le deuxième film, donc, c'est un film qui s'appelle Ama Gloria, qui est aussi passé assez rapidement dans les salles des Carmes. Alors, Céline, si tu peux, tu me retrouveras le nom de la réalisatrice, parce que là, j'ai un petit trou. Donc, c'est encore un film de femme. Et moi, j'ai trouvé que c'est un très, très joli film. C'est l'histoire d'une nourrice du Cap-Vert qui a laissé ses enfants, sa famille au Cap-Vert pour venir en France travailler et envoyer de l'argent là-bas. Et elle s'occupe d'une petite fille depuis qu'elle est bébé, parce que sa maman est décédée de maladie et le père ne s'est pas remarié, vit seul, travaille beaucoup. Et donc, c'est cette femme qui s'est exclusivement occupée d'elle. Et elle doit repartir au Cap-Vert parce qu'elle est appelée là-bas parce que sa fille, qui est encore jeune, a un enfant. Et elle n'est pas en mesure de s'en occuper. Et donc, elle va s'en occuper. Elle repart au Cap-Vert. Et cet enfant vit ce départ comme une trahison. Et elle va donc... Le père va lui proposer de partir pendant l'été au Cap-Vert, rejoindre cette nourrice. Et donc, c'est l'histoire de cet été avec cette... Alors, le film est tourné à hauteur d'enfant. La petite actrice est formidable. L'actrice du Cap-Vert est formidable aussi. Elles sont toutes les deux non-professionnelles. Et elles éclaboussent le film de leur talent, vraiment. C'est très, très bien écrit. C'est extrêmement sensible. C'est très, très émouvant. Je vous mets au défi de ne pas verser votre petite larme à la fin du film et même avant. Voilà, pour moi, c'était une très bonne surprise. Et moi, je suis ressorti très, très ému de ce film. Et si vous avez l'occasion de le voir sur un autre support que l'écran de cinéma, regardez-le. Je vous assure que vous passerez un grand moment d'émotion.
Et c'est donc Ama Gloria, qui est un film réalisé par Marie Amachoukeli, qui est une réalisatrice française, qui a 44 ans. Et je regarde un peu sa filmo.
Je crois qu'elle a fait un autre film avant.
Oui, même plusieurs, j'ai l'impression.
Non, moi, je me rappelle de celui d'avant.
Il y a eu Hypno pour la troisième scène de l'Opéra National de Paris. I Want Pluto to Be a Planet Again, ça j'en ai entendu parler. Party Girl.
Oui, c'est ça, c'est Party Girl que j'avais vu.
Qu'elle a co-réalisé avec Claire Burger et Samuel Taïs.
Ce qui se passait dans les milieux du striptease.
Yes, oui, effectivement, ça me parle.
C'était un joli film. Je crois qu'il avait dû avoir un prix à Cannes, il me semble. Peut-être une caméra d'or ou je ne sais plus.
Ouais. Party Girl.
D'accord.
Mais elle a aussi co-réalisé Demolition Party, C'est gratuit pour les filles et Four Back qui sont co-réalisés ou co-écrits avec Claire Burger.
Donc elle a déjà un peu de route.
Oui, tout à fait.
Donc je confirme que la productrice du film d'Ambrosioni, Les drapeaux de papier, était Stéphanie Douai de Sensito Film.
D'accord.
Et elle l'a accompagnée jusqu'au bout et... C'est quand même...
Pour son premier film.
Pour son premier film, où elle a mis 1 million d'euros sur la table.
Ok. Et pour Tony en famille...
Tony en famille, je ne connais pas le producteur, mais je vais vous le dire tout de suite.
Il arrive à cheval.
Au bout d'un certain temps, quand même.
On va arriver bientôt à la fin de l'émission. Je crois que Gob, toi, tu as donc dit, tu as parlé des films que tu souhaitais parler. Très bien. Et Claude, il reste 3 minutes.
Non, si... j'ai pas de.
Tu voulais.
Non, je pense que le film qu'il faut aller voir, c'est Le procès Goldman.
D'accord, mais que tu n'as pas encore vu.
Non, j'ai pas encore vu.
Il est sorti aujourd'hui.
Il est sorti aujourd'hui. D'accord. Ok.
Et je vous dis qui est le producteur de Tony en famille. Nous sommes en direct. Hein, comme
oui,
vous,
bah oui, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour les personnes qui viennent d'arriver.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on vient de parler du procès Goldman. Moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est, vous voyez, aujourd'hui, on a parlé pratiquement que de films français. Moi, je trouve qu'il y a plein de films français intéressants qui sortent. Alors, on en a souvent parlé ici, qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu des films retardés et tout. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie vitalité du cinéma français. Aujourd'hui, on aurait pu parler de films qu'on n'a pas encore vus, effectivement, comme Le procès Goldman qui sort aujourd'hui, comme Acide, le film de Joss Philippot qui est sorti la semaine dernière, le Gondry, que moi, je n'ai pas encore vu, mais que j'ai hâte de voir aussi, le Livre des solutions. Donc, je pense que là, vraiment...
La Palme d'Or aussi, oui, avec Justine Triet.
Voilà, on est vraiment dans une période florissante pour le cinéma français. Et donc, bah, allez-y, allez,
faut oui, foncer dans les salles. Soutenez le cinéma français.
Je vous confirme, je vous dis que Tony Ambrosioni était du Sud, il est de Grasse. Et je confirme qu'il a bien fait ses premiers films à 12 ans, donc il ne m'avait pas raconté d'histoire. Et le producteur du film de Tony en famille s'appelle Hugo Célignac. Alors, je ne sais pas de quel...
Qui est réalisateur.
Comment d'accord.
Hugo Célignac qui est réalisateur, qui est... qui fait plutôt du cinéma grand public, lui.
Et c'est qu'il
a tourné comme Arcy.
Et c'est un garçon qui écrit ses propres scénarios. Hein, c'est,
d'accord.
Ce qui est quand même... à 17 ans, il a écrit le scénario de Drapeau de papier, il avait 17 ans.
Comme tu le disais, Céline, peut-être le Xavier Dolan français en devenir.
Peut-être. On verra. Eh bien, merci beaucoup pour cette heure à parler cinéma. C'était un plaisir. On espère qu'on vous
et
a
pour nous aussi.
Partagé.
On espère qu'on vous a donné envie d'aller voir les films dont on vous a parlé. On se retrouve donc dans 2 semaines pour nous, mais la semaine prochaine, donc tous les mercredis 19h-20h, c'est l'émission Alors on se fait un film sur l'actualité cinématographique. Donc la semaine prochaine, c'est l'autre équipe, Vincent, Arnaud, Julien, voilà l'autre équipe qui parlera aussi cinéma. Eh bien, on va vous laisser et on va laisser la place à la prochaine émission à l'équipe Chip Mido. Donc, restez sur les ondes sur Radio Campus Orléans. On vous souhaite de passer une très bonne soirée. Allez au cinéma et à bientôt.
Bye, à bientôt.
Un tout petit message, Céline.
Vivre la santé.
Qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais le 5 octobre. Au Dropkick Murphy, au Al Châtelet, il y a un groupe que j'adore qui joue, c'est un groupe québécois qui s'appelle Les Vulgaires Machins, qui vient très peu souvent en France, qui vient de sortir un nouvel album. Ils n'avaient pas sorti d'album depuis pratiquement 15 ans et c'est super bien. Et il y aura, je pense qu'il va y avoir du monde, donc si vous venez, venez tôt.
C'est quel genre de musique ?
C'est du pop punk rock.
Yes.
Et c'est, okay. Et ils chantent en français parce que c'est des Québécois. Et les paroles sont très bien. Et c'est des gars formidables. Et des gars et une fille parce que il y a une fille qui chante et qui joue de la guitare. Voilà. Donc allez voir Les Vulgaires Machins le 5 octobre.